J'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes. Oui, je viens de donner un coup dans le micro. Vous êtes à l'écoute du Canu Info du jeudi 17 juin 2021. Et en face de moi, qui se crispe quand je touche le micro avec mes mains.
Oui.
C'est bonsoir à toi, Laure.
Bonsoir, Delphine.
Ah, c'est des choses qui arrivent. Écoute, hein, je m'en excuse. Nous allons parler de plein de choses ce soir, mais comme je n'ai pas fait de déroulé, tu vas
ouais, gérer. C'est une émission un peu particulière. Hein. On improvise beaucoup, là.
Ouais.
Des fois, les contraintes font qu'on fait ce qu'on peut. C'est un peu ça. Hein. En tout cas, on va parler de quelques sujets d'actualité et on parlera aussi un peu de culture, voire beaucoup de culture, de films, d'insectes aussi. Pas que en lien avec la culture, et de bandes dessinées.
Bon, en vrai, tu voulais nous parler quand même de la dictature chinoise, sinon?
Ah oui, un petit peu, parce que j'aime bien la dictature chinoise.
Alors, bah, tant que t'aimes bien, tout va bien. Tu voulais nous parler de vaccin et de Covid, parce que c'est vrai que maintenant qu'on n'a plus nos masques, on peut quand même continuer à parler du vaccin et du Covid, mais tu voulais partir en Tunisie.
Ouais, pour parler un petit peu de ce qui serait possible de faire.
Et effectivement, on voulait vous parler de 3 BD. Toi, tu vas parler surtout de 2 BD Blanc Autour, Jour de Sable. Et puis, on vous parlera d'une BD qui s'appelle L'attente, et nous sommes allés voir La Nuée de Juste Philippot, et voilà, c'était l'occasion de discuter un petit peu des insectes. Nous n'avions pas parlé de Mandibule.
Eh ben, on parlera de Mandibule.
Bah non. Mais
ah merde.
On attend. Ne change pas le peu de déroulé que nous avons, s'il te plaît.
Bon, je vais ouvrir donc avec la réponse en fait à un appel de l'OMS, hein, de la part de la Tunisie notamment, qui veut évaluer le potentiel de production des vaccins. Donc, qui a lancé un appel, qui se sent prêt à fabriquer, à faire du vaccin. La Tunisie semble se positionner. On va parler du cas de la Tunisie et qui pourrait donner des idées. On sait que la Tunisie, le problème de la pandémie du Covid-19 pour la Tunisie est quelque chose d'important lié au vaccin, hein, puisque Hichem Mechichi, j'espère que je prononce pas trop mal, le chef du gouvernement tunisien, était à Genève il y a quelques jours, le 8 et le 9 juin dernier, très exactement. Il a plaidé la cause de la Tunisie auprès de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et auprès de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Alors, pour deux choses. D'abord, pour obtenir des doses de vaccins anti-Covid, mais aussi, et c'est là le sujet de ce soir, d'accéder au marché de la fabrication des vaccins prometteurs, hein, pour la Tunisie. Il s'est entretenu notamment avec Ngozi Okonjo-Iweala, j'espère que je ne prononce pas trop mal son nom, la directrice générale de l'OMC. qui s'est quand même plutôt engagé à aider la Tunisie. Donc la Tunisie est allée à l'OMC et à l'OMS. Et l'OMS, c'est pour demander une assistance pour l'Autorité nationale de régulation du secteur sur la projet de répartition des vaccins et de la production des vaccins, notamment ARN messager. Alors c'est Hesmil Ouzir qui est directeur de l'Institut Pasteur de Tunis et qui est aussi président du comité opérationnel de la vaccination de son pays, qui a expliqué tout ça un peu au journal Jeune Afrique, entre autres. Donc lui, il explique que pour lui, la Tunisie, alors il bosse à l'Institut Pasteur de Tunis, donc un truc sérieux. Pour lui, la Tunisie peut devenir un pays producteur de vaccins contre le coronavirus. Alors il parle pour les habitants de la Tunisie, bien évidemment, mais aussi pour d'autres, pour la région, en fait, voire le continent africain. Donc il défend sa sauce un peu, il dit voilà, les capacités de la Tunisie pour produire sont indéniables, il suffit de regarder un petit peu l'histoire derrière nous. Alors il explique, l'Institut Pasteur tunisien produit déjà le vaccin le plus répandu qu'on fait à tous les enfants, le BCG, et aussi il y a une grosse industrie, il y a une industrie pharmaceutique qui existe, il y a des hommes et des femmes qui sont formés en tant que techniciens pour travailler dans cette industrie. Donc lui il dit, ben voilà, je pense que la Tunisie est prête à rentrer dans la fabrication plus généralement des vaccins, et plus spécifiquement des vaccins contre le Covid, voire ARN messager. Voilà. Alors il faut savoir que l'OMS, quand ils ont lancé cet appel, ils cherchent à identifier 5 ou 6 hubs. Alors maintenant l'OMS parle comme les aéroports, ils font des hubs régionaux pour la production de vaccins en Afrique. Alors, on parle que de l'Afrique là, mais il y a d'autres hubs. Mais dans les autres régions du monde, la problématique est très différente. On sait que l'Asie, il y a des grands centres producteurs déjà existants, en Chine bien évidemment, et puis en Inde. L'Amérique du Sud, c'est un peu compliqué. Et là, on parle de l'Afrique, qui est le pays, le continent qui a le plus de mal, avec une industrie pharmaceutique très peu existante, à part un petit peu, donc en Tunisie et surtout en Afrique du Sud. Mais qui ne fabrique quand même pas des vaccins anti-Covid nulle part. Du coup, c'est le but de l'OMS, c'est de construire ces 5 ou 6 centres de production de vaccins en Afrique. Mais finalement reste la question de lever des brevets. Alors faut être réaliste, la levée des brevets, la levée de la propriété intellectuelle globalement sur les vaccins, notamment ARN, ne suffira pas pour que certains pays, et que notamment d'Afrique, et que donc se construisent ces hubs. Il faut aussi lever la propriété intellectuelle sur la technologie de fabrication des brevets. C'est-à-dire il faut une stratégie de la part de l'OMS de transfert de technologie sur ces productions de vaccins nouvelle génération. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Parce que quand le président américain a parlé de lever les brevets sur les vaccins, ça a été compliqué. Les autres capitalistes dans le monde, ils ont été un peu frileux. Alors que s'il faut faire du transfert de technologie là-dessus, là on sent bien que tous les libéraux égoïstes, comme le sont tous ces capitalistes, ça va devenir compliqué. Mais l'OMS a peut-être un rôle à jouer là-dessus, vu qu'ils ont en ce moment un peu les États-Unis d'Amérique derrière eux, ça fait quand même un gros poids, et ça pourrait être une belle bataille mondiale, la levée. Donc je rappelle, des brevets aussi bien sur les vaccins eux-mêmes, c'est-à-dire l'ARN messager qu'il y a dedans, et aussi tout ce qui concerne la fabrication, parce qu'on rappelle qu'il y a la bulle lipidique, qui est un truc très compliqué, qui a été très compliqué à mettre au point, et enfin il y a tout ce qu'il y a là derrière, plus la fabrication. Voilà. Du coup, cet exemple de la Tunisie, il est important parce que c'est quelque chose qui pourrait, en tout cas c'est l'espoir qu'on a, lancer des débats plus profonds sur les transferts de technologie quand ça concerne la santé. Alors bien sûr, nous on aura envie de remettre en question les brevets et le capitalisme en général, mais dans une première étape, quand ça concerne la santé, c'est important. Alors on a un petit espoir, c'est que tout le monde sait maintenant dans les pays un peu riches que si ces pays-là arrivent, et c'est presque le cas, à vacciner une grosse partie de leur population, alors on est encore loin de l'immunité qu'on pourrait espérer, mais le plus gros risque pour ces pays, c'est que à la rentrée, il y ait des retours de contamination, parce que, un, leur population n'est pas assez vaccinée, et deux, parce qu'on a des variants qui vont apparaître de partout où l'épidémie, où le virus circule beaucoup. Et là où il circule beaucoup, c'est les pays qui n'ont pas vacciné, qui n'ont pas accès à ces vaccins. Et donc, cet égoïsme des pays riches, des pays capitalistes, qui fait que ça bloque pour l'instant sur les transferts de technologie et sur les brevets, eh ben ça pourrait aussi servir parce que en se disant ben on aura un retour de bâton. Alors le problème, c'est toujours un peu compliqué ces retours de bâton au niveau de la santé, puisque entre les industries qui possèdent les brevets et les États qui gèrent un peu la santé, ben y a pas beaucoup de points communs. Mais bon, voilà, le débat est relancé au niveau de l'OMS et on espère que ça pourrait aller un petit peu plus loin. Voilà. Continuons.
Allons-y.
Oui, c'est toujours à moi parce que
nous pouvons parler d'autre chose entre temps pour que tu respires.
Je vais parler de la dictature communiste chinoise, tu vois. Une info que j'ai appelée, qui va concerner deux pays, mais deux îles en tout cas. La dictature chinoise ne lâche rien. Voilà, tu peux te mettre ça en musique, on lâche rien, ça marche aussi pour les dictatures. Alors on va commencer par parler d'un raid de la police de Hong Kong, puisque c'est arrivé aujourd'hui. Cinq responsables du journal pro-démocratie qui s'appelle Apple Daily ont vu arriver les flics. Et quand on voit arriver la flicaille, en général, c'est pas bon signe. En France, hein, comme en Chine. Mais en Chine, ça prend un niveau un petit peu supérieur. C'est la différence entre une démocratie représentative et une dictature. Donc ces arrestations visent ce journal qui a, depuis un certain temps quand même, apporté pas mal de soutien au mouvement pro-démocratie à Hong Kong, puisque là, on est à Hong Kong. Donc cinq dirigeants du journal ont été arrêtés. Alors, comme d'habitude, les mêmes motifs. Collusion avec un pays étranger ou avec des éléments externes visant à mettre en danger la sécurité nationale. Voilà, ça c'est la flicaille hongkongaise qui a dit ça dans un communiqué. Ils ont confirmé qu'ils ont arrêté ces cinq personnes parce qu'ils occupaient des fonctions au sein de la direction du journal et de Next Digital, qui est la maison mère en fait d'Apple Daily, du journal. Alors la bourse de Hong Kong aujourd'hui a suspendu les échanges auprès de l'action Next Digital, pour calmer un petit peu les marchés. Le capitalisme, finalement, a peur, mais s'adapte à la dictature chinoise, quelque part. Donc, le journal a diffusé en direct l'arrivée des flics ce matin. On voit les flics arriver sur les images, faire un périmètre de sécurité et rentrer dans le bâtiment. En un an, il faut avoir en tête que le climat politique s'est considérablement dégradé. Il y a un peu plus d'un an, on avait encore des manifs, on avait encore un peu, pas de l'espoir, mais du mini-espoir qu'il y a un truc qui tienne quelques années encore. Là, c'est fini, hein, tout ça. Tout a fondu après les répressions de 2019, notamment. 2020, donc l'année dernière, et l'aboutissement cette année. L'aboutissement de cette reprise en main du système hongkongais, c'est la loi qui s'appelle la loi sur la sécurité nationale, qui a été imposée par la dictature chinoise, qui, je cite, vise à assurer que seuls les patriotes gouvernent Hong Kong. Étant patriote, sous-entendu, patriote pro Chine. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc cette loi, hein, elle prévoit des peines de prison à vie pour les différents faits. Alors tout de suite, hein, dès qu'on a collusion avec les forces étrangères, c'est en gros trahison, et on a aussi très vite appel à la sécession, à la subversion, au terrorisme. Enfin, on sait très bien comment les dictatures peuvent utiliser ces différents termes pour arrêter les militants et les militantes pro-démocratie. Alors c'est le deuxième raid, hein, la deuxième intervention policière que subit en moins d'un an ce journal Apple Daily. Alors il est détenu par un milliardaire, capitaine d'industrie, disons-nous, Jimmy Lai. Donc il a créé le journal en 95, il est toujours propriétaire. Lui aussi, il a été accusé de collusion avec l'ennemi, avec les forces étrangères. Mais il est en taule, hein, puisque c'est la dernière descente, c'était au mois d'août. Lui, il s'est fait arrêter, au mois d'août l'année dernière, il y a un peu moins d'un an. Donc il est emprisonné, et voilà comment on met en prison les présidents, directeurs capitalistes, finalement, qui défendent la démocratie. Alors, le gouvernement communiste chinois n'a jamais caché, quoi qu'il arrive, son désir de faire entrer ce journal dans le rang. Alors, pour l'instant, il n'y arrive pas, et les journalistes sont encore exprimés en disant qu'ils résisteraient jusqu'au bout. Alors, ils sont pas loin du bout, quand même, il faut avoir ça en tête. En face, il y a des médias officiels, inféodés à la dictature chinoise, qui présentent le journal, qui présentent Monsieur Lai comme un traître. On voit très bien la manipulation, ce qui existe dans ce régime-là et ce qui se passe à Hong Kong actuellement. La police a justifié avec cette fameuse loi le gel des comptes bancaires et donc de Monsieur Lai et la participation majoritaire de Monsieur Lai au capital de Next Digital, donc qui est la maison mère du journal. Donc ils ont essayé de tout bloquer de toutes les manières possibles, aussi bien en jouant sur l'argent, sur les arrestations de journalistes comme aujourd'hui, de la direction comme aujourd'hui aussi. Voilà, ils essayent tous les moyens de bloquer. Ça démontre une fois de plus que le principe un pays, deux systèmes a disparu il y a un peu plus de 2 ans, c'est fini. La Chine essaye vraiment de récupérer le peu d'idées démocratiques résistant encore à Hong Kong et de s'en débarrasser. Alors, il n'y a pas que Hong Kong, il y a Taïwan aussi. Et la Chine, là aussi, y va de ses mesures répressives et montre un peu les muscles. La provocation chinoise est permanente de toute façon dans cette région pour les îles, les bouts de territoire, les pays qui ne sont pas encore inféodés à elle-même, à la Chine. Donc là, on a vu, hein, il y a quelques jours, il y a eu un G7, on a parlé de paix, de stabilité, on a parlé, ces gens-là, ces dirigeants ont parlé de ce qui se passe, notamment là-bas, en Chine, à Taïwan, ailleurs, mais bon, rien n'est sorti. Aujourd'hui, 28 avions de... Alors, c'était hier, peut-être. 28 avions de l'armée chinoise. C'est avant-hier. Je vais la retrouver. Le 15 juin, donc. De l'armée populaire de libération. Pardon, j'avais pas utilisé le bon terme communiste. Donc, de l'armée populaire de libération ont pénétré dans l'espace aérien de Taïwan, histoire de mettre la pression une fois de plus. Alors, c'est le record du nombre d'avions qui pénètrent en une seule journée dans l'espace aérien taïwanais. Alors, ils ont vu voir arriver des avions de chasse, puis des bombardiers porteurs potentiellement, on n'a pas la preuve, mais potentiellement d'armes nucléaires, enfin de bombes atomiques. Voilà, c'est le bonheur de vivre pas trop loin de la Chine et de vouloir vivre de manière indépendante et libre. Donc ces survols, ils sont réguliers pour Taïwan. Il y a des menaces d'invasion de la part de la Chine qui sont régulières. Tout le monde attendait un changement un petit peu. Alors, on se rappelle, Taïwan avait misé sur Trump. Trump avait eu un comportement anti-chinois très très fort. Alors, c'était un comportement anti-chinois très fort dans les annonces, mais dans les faits, il se passait rien. Donc, Taïwan avait misé sur ce Trumpisme en disant, ça va nous protéger de la Chine. Finalement, ça les protège de rien du tout parce que le Trumpisme, c'était juste des effets d'annonce. Là, il y a Joe Biden qui arrive. Joe Biden poursuit toujours un peu et manipule d'ailleurs pas mal ce qui se passe dans cette région en reprenant la lutte contre la Chine, puisque voilà, on est toujours dans cette guéguerre de domination entre la Chine les États-Unis d'Amérique. Mais ça ne sert pas finalement Taïwan, que ça soit Biden ou que ça soit Trump. Tous les deux instrumentalisent la problématique de Taïwan ou de Hong Kong à leur fin personnelle. Et du coup, ça progresse pas. Même s'il y a un petit truc qui est peut-être un peu positif, c'est jusqu'à maintenant, le Japon a un accord militaire de protection avec les États-Unis d'Amérique et il y a le projet de faire rentrer Taïwan dedans. Bon. Je ne sais pas si ça peut changer quelque chose. L'idée, c'est d'empêcher la Chine d'aller plus loin. Ça, c'est pas gagné. Alors, à un moment, la Chine avait... et certains Taïwanais qui sont pro réconciliation ou réunification avec la Chine, faire une réunification pacifique. Aujourd'hui, c'est plus imaginable du tout. Il faut savoir que même à Taïwan, le camp qui était pour une seule Chine, une réunification pacifique, même eux, ils ont abandonné l'idée. Hein, ils disent qu'avec la Chine, là, en ce moment, c'est plus possible. Xi Jinping, il veut faire aboutir les choses. Alors, pourquoi il veut faire aboutir les choses? Il y a plusieurs raisons à tout ça, et notamment rapidement. D'abord, il est vieux. Il a 68 ans. Donc, il voudrait que ça arrive, cette réunification, cette grande Chine, avant avant qu'il meure ou qu'il soit malade, je ne sais pas. Ensuite, il y a deux dates clés qui arrivent, en dehors de l'accélération qui pourrait être aux alentours de 2030. Il y a 2027, c'est l'anniversaire c'est la première étape de ce qu'ils appellent la fin de la modernisation du pays. C'était là, tout ce qui a été mis en place ces dernières années. Donc 2027, c'est une date butoir et ça pourrait lancer peut-être la suite, c'est-à-dire faire rentrer tous ces indépendantistes et ces peuples qui veulent vivre libres dans le giron de la Chine. Il y a la date de 2035 aussi qui traîne parce que c'est une date anniversaire. Alors je me suis trompé, alors 35 c'est la date anniversaire de la fin de cette première partie de modernisation et 2027 c'est l'anniversaire de l'armée populaire, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'armée populaire de libération. Donc il peut jouer sur ces dates clés, donc 2027-2035, voire avant, entre 2030, parce que voilà, il veut faire accélérer les choses, on le sent, hein, Xi Jinping, pour arriver à le faire avant qu'il arrête. On sait qu'il va aller jusqu'au bout parce qu'il peut tenir jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, mais 68 ans, c'est quand même déjà un âge avancé. Et il n'y a plus du tout l'idée donc du coup de réunification pacifique avec Taïwan malgré ce qui a pu être imaginé il y a quelques années. Alors Taïwan face à ça, il ne peut pas faire grand chose. C'est une petite île face à une armée chinoise. Ils sont coincés. Donc ils ne peuvent qu'espérer de ne pas se sentir trop isolé. Donc c'est là où l'espoir réside aujourd'hui, c'est les États-Unis d'Amérique, hein, c'est ça, et puis c'est à peu près tout. Donc voilà, ils sont dans cette situation compliquée, les pauvres. Voilà, j'ai fait mes infos du jour, on a été un peu court aujourd'hui. On va peut-être parler un peu cinéma là maintenant, non ?
Moi j'allais parler d'abord BD, si tu veux bien.
Vas-y, c'est toi la chef un peu quelque part.
quelque part, je sais pas, tout, en entier, oui tout à fait. Je le revendique sur cette antenne. Je voudrais parler de cet ouvrage dessiné. La tante sous-titrée une famille coréenne brisée par la partition du pays de Kim Suk Jeondri Kim. C'est une auteure que vous connaissez peut-être. On la connaît pour Les Herbes Sauvages, une BD précédente qu'elle avait publiée. C'est pas très vieux, sur les esclaves sexuels coréennes violées par
les Japonais, l'armée japonaise.
On la connaît aussi. J'attends de lire une BD que je n'ai pas lue. J'attends avec impatience, qui s'appelle Alexandra Kim, la Sibérienne, qui est sous-titrée La première révolutionnaire bolchevique coréenne qui rêvait d'un monde égalitaire. C'est une BD issue d'un roman. On la connaît pour Gisèle, hein, et puis elle avait commencé avec Le chant de mon père, mais elle est aussi traductrice. Elle a vécu longtemps en France. Donc,
à Paris, oui.
Elle a, je crois, près de 17 ans. Donc, on la retrouve traductrice de vieilles BD. Elle est sortie à l'époque par Casterman. Peut-être que ça vous parle et ça vous donne des souvenirs vedettes ou feu. Mais aussi, elle a fait la traduction d'un des ouvrages de la série Nambul sur l'histoire de la guerre entre la Corée et le Japon. Et puis, elle a été la traductrice de cet ouvrage absolument magnifique qui s'appelle Massacre au pont de Nongunri. Absolument à lire si vous avez jamais lu cette BD de Park Kun-wong. Vraiment magnifique. En tout cas, nous avons donc un nouvel ouvrage. L'Arbre nu aussi, dernièrement, qui était sorti en 2020 avec ses très belles couvertures rouges, sorti aux arènes. Là, on a un nouvel ouvrage qui est dense.
Oui, c'est épais.
C'est déjà ce qui nous rappelle de pourquoi on aime le livre papier, parce qu'on a là quelque chose d'absolument magnifique. Elle dessine en noir et blanc.
Ouais.
Avec un trait assez épais, mais beaucoup dans le détail. Elle sait aussi utiliser, j'imagine, à la fois le fusain. Enfin, on sent qu'il y a plusieurs. Il y a un travail assez précis, à la fois des visages, décors.
Et il y a des pages très graphiques où il n'y a pas de texte. Où
c'est très très beau.
Où il y a pas mal de personnages, notamment dans les scènes un peu où il y a un peu du monde. Alors, tu vas parler un peu du thème de cette BD. Mais...
Alors, de quoi ça nous parle ? Ça nous parle. Il y a une narratrice. Dont la mère a été une migrante qui a fui cette guerre qui a séparé ces deux Corées, qui va être séparée de sa famille sur le chemin de la fuite et qui aujourd'hui... à la vieillesse, pas très loin de la mort, se demande ce que sont devenus son mari et l'un de ses enfants.
Son premier mari, oui.
Et... c'est cette séparation dont nous parle cet auteur. Moi, je voudrais juste, pour qu'on se mette dans l'ambiance, alors il y a une postface qui est très très belle. Ouais. Juste, la postface commence par « Il y a des gens qui attendent toute leur vie des retrouvailles avec leur famille. » Je vais vous en lire un petit bout, comme on a le temps, pas l'intégralité, ça ne servait à rien, mais c'est pour vous donner un petit peu aussi une idée dans quel esprit cet auteur, je ne sais même pas si on l'a cité, dis donc, comme Jeandré Kim, si on l'a dit tout à l'heure, dans quel état d'esprit elle a aussi écrit cet ouvrage. Je commence donc au milieu de cette postface. La génération qui a vécu la guerre est en train de s'éteindre, et avec elle un pan de cette douloureuse histoire. La génération actuelle ne s'intéresse que peu à la réunification des deux Corées. Pour elle, la guerre fait partie d'un passé désormais très lointain. Les gens rejettent la douleur des familles séparées qui leur paraît trop évidente. Le Sud et le Nord resteront-ils comme des lignes parallèles qui jamais ne se rencontreront? L'attente est une fiction réalisée à partir des témoignages de ma mère, de Madame Lee et de Monsieur Kim, dont les éléments ont été réorganisés. Si j'ai choisi la fiction plutôt que le témoignage, que dans mon autre ouvrage « Mauvaise herbe », c'est par souci de ne blesser ni les personnes rencontrées ni leurs familles. Ils se sont ouverts à moi et m'ont raconté leur vie. Ai-je une légitimité à évoquer sans phare la souffrance d'autrui? Il reste que, comme vous l'aurez compris, ce récit est construit sur un socle de témoignages réels. Combien de personnes dans ce monde ont perçu leur famille ou ont été séparées par la guerre? Il ne s'agit pas seulement de l'histoire de la Corée, du peuple coréen ou de ma mère. Les Coréens ne sont pas les seuls à avoir dû quitter leur pays natal pour fuir la guerre. Il suffit de voir tous ces migrants qui aujourd'hui tentent de rejoindre l'Europe dans l'histoire d'y trouver une vie meilleure. Donc, c'est une histoire à la fois familiale, local mais international dont vous nous parlez cet auteur, à travers effectivement une histoire familiale de sa mère, mais pas seulement, hein, c'est ce que je vous dis, elle a reconstruit quelque chose. Donc on se retrouve avec cette narratrice...
En fait, quand la guerre se déclare, ils migrent pour essayer de descendre loin de la guerre. Et là, donc un couple sont séparés. Donc il y a un homme, une femme, une toute petite fille qui est bébé.
Un bébé.
Et un garçon qui doit avoir 3-4 ans. Et ils sont séparés pour des raisons multiples. Parce que voilà, à un moment...
Presque, c'est pas expliqué. Et puis
Si, elle va allaiter dans un coin et elle se met à part et elle ne les retrouve pas.
C'est pas quelque chose d'exceptionnel, oui. C'est la vie.
En fait, ils sont séparés, et ils prennent un train... Et en fait, donc cette femme va jamais revoir ni son mari ni son garçon. Et elle arrive en Corée du Sud. Et là, on est dans les périodes où il y a des tentatives de rapprochement.
Elle arrive pas en Corée du Sud. Elle arrive dans ce qui va devenir la Corée du Sud. Et effectivement, tu parles de ce qu'on appelle les réunions de famille qui ont été mises en place dans les années 2000. Souvent, vous savez, les Kim, père, petit-fils, tout ça, on fait beaucoup de chantage en disant on va arrêter ces réunions de famille qui ont permis des hommes et des femmes de pouvoir retrouver un frère, une sœur, un père, un enfant, de l'autre côté de la frontière, puisque ça se passe au nord. Mais en fait, ça concerne très très peu de familles.
Oui.
C'est vraiment.
Il y a beaucoup de demandes, il y a très peu de familles.
Du cas de l'exceptionnel, mais en tout cas, du côté du Sud, il y a des vidéos qui sont tournées pour que, en tout cas, le témoignage puisse rester et que, comme nous le rappelle l'auteur, cette génération elle est en train de disparaître et que donc il fallait garder des témoignages et puis peut-être que il pourrait y avoir des petits enfants au Nord à un moment qui pourraient retrouver ces vidéos parce qu'il y a quand même l'idée derrière de est-ce qu'à un moment il va y avoir une réunification ou pas et donc il faudrait laisser des traces de ces générations séparées à des générations qui peut-être aujourd'hui ne sont plus intéressés, mais peut-être que les enfants le seront demain s'il y avait une réunification.
Oui, parce que là, les personnes âgées là, qui sont présentes dans le livre, qui ont été séparées, ont envie d'une réunification. On sait qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué en Corée du Sud. En Corée du Nord, on ne sait pas, de toute façon, ils n'ont pas le droit de parler, mais en Corée du Sud, la réunification, ce n'est pas très porteur comme discours. Et effectivement, l'idée de ce genre de livre, c'est de faire, garder des traces pour se rappeler que c'est un seul et même... c'est les mêmes personnes, c'est des familles qui ont été coupées en deux, avec tout le drame qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est quelque chose d'important et qu'il ne faut pas oublier. On l'a vu avec l'Allemagne, ils sont arrivés à reconstruire, ça a été un peu long et compliqué. Mais voilà, c'est la même chose entre les deux Corées, sauf qu'ils sont, ils ont encore la dictature au nord.
Alors, c'est aussi un ouvrage sur... le lien familial, le lien entre une mère et sa fille dans cet ouvrage, comment à un moment quand eux, enfants, on grandit, on s'éloigne, on déménage, on culpabilise de ne plus être assez proche de son père ou de sa mère, de ne pas répondre à leurs inquiétudes et peut-être de ne pas avoir su à cette chose sur nos propres parents pour avoir être au courant de souffrance. Et donc cette narratrice dans cet ouvrage met du temps à comprendre la souffrance de sa mère qui a perdu une partie de son amour, un homme, un enfant, a dû reconstruire une vie dans un pays qui était lui-même en construction, tout en recréant une famille aussi. Mais du coup, il y a aussi cette transmission-là d'une histoire qui est très compliquée parce que c'est aussi une histoire coréenne où on ne raconte pas forcément tout d'un coup et on ne s'ouvre pas complètement, et en particulier à sa famille, on ne veut pas gêner. Donc c'est intéressant parce que la tante, c'est la tante de la mère, va-t-elle à un moment être contactée pour pouvoir passer cette ligne, cette DMZ, et aller revoir peut-être une famille qui est encore là. En tout cas, elle a l'air d'avoir jamais pensé que ces gens pouvaient être morts. Elle a toujours cet espoir qu'elle pourrait les rencontrer, qu'au bout ça peut arriver, parce qu'on sait qu'il y a des gens assez âgés qui arrivent à se retrouver de l'autre côté. Donc c'est aussi porteur de quelque chose qui a l'air d'avoir construit toute une vie. Les gens se sont construits au sud en se promettant, et c'est le cas dans ces personnages, pas la première fois qu'on l'entend, de se dire que si jamais il y avait une réunification ou une réconciliation, j'irais retrouver l'homme ou la femme que j'aimais d'abord. Tu es bien gentil, j'ai reconstruit ta vie avec toi, mais en fait j'avais une vie avant et c'est cette vie-là que je voudrais retrouver. Donc c'est quelque chose de très compliqué pour une génération de ces hommes et femmes qui sont aujourd'hui en train de disparaître. Et c'est, je trouve, c'est un ouvrage qui nous porte avec beaucoup d'émotion, je trouve, le rapport entre cette mère et cette fille, entre cette mère qui a dû abandonner une partie d'elle-même de l'autre côté de cette DMZ. Et puis, on a un dessin qui est très dynamique, nous amène aussi cette souffrance. On a des belles pages, vraiment, qui nous racontent beaucoup de choses, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, c'est un très bel ouvrage pour se pencher sur ce que c'est que l'abandon, la migration. Le déracinement.
Même s'ils sont déracinés au sein de leur propre pays, c'est ça qui est assez incroyable avec la Corée.
Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ce sont deux pays avec même un dialecte très différent dans des régions de la Corée du Nord, on le sait. Il y a des ouvrages de science de fiction qui nous racontent des espions du Nord qui iraient s'installer au Sud ou ailleurs, à qui on apprend l'anglais, à qui on apprend la carte bancaire, à qui on apprend à ne plus avoir d'accent du Nord pour pouvoir intégrer une Corée du Sud. Tout ça, c'est de la fiction, mais on sait aussi que les tunnels ont servi à quelque chose sous la DMZ. Donc c'est deux pays qui seraient même peut-être difficiles à rassembler, mais en tout cas il y a au moins une réconciliation qui pourrait être possible, mais qu'il ne serait que si jamais cette dynastie, comme elle est parfois appelée dans un certain nombre d'essais géopolitiques, tant qu'elle est là, cette dynastie, il ne pourra rien se passer de mieux. Il faudrait un Big Bang en Corée du Nord pour que les choses changent définitivement sur cette côté-là, en tout cas de réconciliation.
Eh ben, on va rester dans la BD et on va aller du côté de l'antiracisme avec une BD qui s'appelle Blanc Autour. Alors, qui est sortie un petit moment, mais je l'ai raté. Je n'ai pas écouté l'émission La Causerie qui en a parlé, par exemple. Mais le scénariste Wilfried Lupano, qui est très connu pour avoir fait... j'ai perdu le nom, tiens. Les papis anarchistes, là, qui font n'importe quoi. J'arrive pas à retrouver... j'ai un trou de mémoire.
Moi non plus, je ne sais plus, là.
Donc il était Wilfried Lupano à la Festival de BD qui a eu à Lyon le week-end dernier. Puis comme il avait entendu parler de la plume noire qui s'était fait attaquer par les fachos, il a proposé de venir faire une dédicace en soutien, et donc il était là, il dédicaçait des BD, et c'est là que j'ai acheté cette BD qui s'appelle Blanc Autour. C'est une BD sur une histoire qui se passe en 1832 à Canterbury, dans le Connecticut.
Est-ce que c'est les vieux fourneaux que tu cherchais?
Les vieux fourneaux, je cherchais.
Il a écrit d'autres choses, alors je me questionne.
Oui, le loup en slip, tout ça, mais je pensais aux vieux fourneaux.
D'accord.
Donc voilà, on est dans le Connecticut. Une institutrice qui s'appelle Prudence Crandall s'occupe d'une école pour filles. Elle accueille plutôt la classe moyenne, les bourgeois. Et puis un jour, elle décide d'accueillir une jeune noire, Sarah. Alors évidemment, on est dans une période où l'esclavage existe toujours, même si le Connecticut c'est au nord, hein, donc il n'y a pas d'esclaves, mais il y a toujours ces sécessionnistes, et elle se prend toute la population blanche, quasiment pas toute, mais une bonne partie, en pleine gueule, et il y a toute une bataille, tout ça, autour de l'idée de scolariser une jeune femme, une jeune fille plutôt, noire. Et du coup, elle se sent provoquée, elle va jusqu'au bout, elle ferme l'école pour les blancs et elle prend que des noirs. Elle décide d'aller encore plus loin, de scolariser des enfants issus plutôt de la classe moyenne noire qui existe un tout petit peu à cette époque-là, pas beaucoup. Hein. Et donc il y a tout ce combat, donc on voit c'est cette affaire qui est donc tirée d'un fait réel, d'émancipation des jeunes filles par l'école. Donc c'est assez fort. Hein, alors c'est un dessin qui est, on n'a pas la mise en couleur se fait sur le crayonné, du coup c'est assez joli, moi je trouve. Et puis c'est très très fort tout le long hein, de ce combat de cette institutrice qui sera obligée de fermer l'école. Enfin, ça, je ne vais pas tout vous raconter l'histoire de son combat, mais qu'elle va continuer ailleurs, devant les tribunaux aussi. Enfin voilà, ça va être important. Du coup, cette petite historiette symbolique de la lutte antiraciste aux États-Unis d'Amérique, eh bien, ça va avoir un impact. Et puis voilà, on va progresser petit à petit. On n'est pas encore au niveau de l'égalité, je vous rappelle. Donc voilà, c'est une belle BD qui parle à la fois de racisme, de solidarité et de féminisme, hein, parce que elle scolarise des jeunes femmes noires. Il y a une vraie réalité aussi derrière tout ça, même si c'est moins mis en avant ce féminisme, c'est une réalité aussi. Donc voilà, une belle BD qui s'appelle Blanc autour. Donc le dessin, c'est Stéphane Fer et Wilfried Lupano, donc qui est scénariste, qui montre que finalement les idées de gauche qu'il a, qu'on voit apparaître dans Les Vieux Fourneaux, c'est pas que de la théorie, c'est quelqu'un qui aime vraiment ces idées-là et qui les défend. Les Vieux Fourneaux, c'est drôle parce que voilà, le papy anarchiste quand il va saboter des banques, c'est génial. Mais ça va plus loin que ça. Et voilà, il prend des sujets qui sont autour d'une problématique antiraciste aussi. Et voilà, c'est très très intéressant. Voilà, ça s'appelle Blanc autour, c'est chez Dargo. Voilà pour votre petite information. Toi, j'étais chez Futuropolis.
Tout à fait.
Et je termine avec une dernière BD. Ouais, on a fait une spéciale BD, en tant qu'à faire. Avec Jour de sable. Donc, c'est de Aimé de Jong. Alors, on reste aux États-Unis d'Amérique. Alors, c'est pareil, c'est une BD qui est tirée d'une histoire vraie. On est en 1937. Vient d'être formée, ou peu de temps avant, la Farm Security Administration. C'était un organisme gouvernemental qui était chargé d'aider les fermiers victimes de la Grande Dépression. Qu'est-ce qu'ils font? Ils embauchent des photographes pour aller photographier la misère, quelque part, pour ramener des arguments pour obtenir de l'argent. Alors va sortir de cette structure Dorothée Lange avec cette magnifique photo qui s'appelle Mère Migrante, qui est certainement la photo nord-américaine la plus connue. Donc ça va avoir un vrai sens. Et on suit donc cette BD qui est quand même avant tout de la fiction, un jeune journaliste photoreporter qui a 22 ans et qui fait son premier photoreporter et qui va dans le Dust Bowl. C'est quoi le Dust Bowl? C'est en Oklahoma. En fait, c'est entre l'Oklahoma, le Kansas et le Texas, c'est à cheval un peu sur ces trois pays. Une région qui était frappée à l'époque, on est juste après, je vous rappelle, la Grande Dépression des années 30, on est en 37 très exactement, où on a des énormes tempêtes de sable qui attaquent les habitants. Alors ces tempêtes de sable, elles sont issues en fait d'une aberration. C'est quand les humains sont allés coloniser ce bout de territoire, ils ont fait de l'agriculture, ils ont détruit donc la faune locale qui tenait la terre en fait, qui est une terre un peu sablonneuse. Cette agriculture s'est développée, ça a marché au début, et puis petit à petit, y a eu de l'érosion. Et donc, ce qui naturellement tenait la terre n'existant plus, il arrive ces tempêtes de sable qui recouvrent tout, qui détruisent, qui donnent des cancers, qui tuent les gens. Et on a ce photoreporter qui se trouve embringué dans cette histoire, qui va essayer de ramener du témoignage et qui, du coup, va se poser des questions parce que on lui dit qu'on peut tricher sur la photo pour montrer la misère, parce que le but c'est de ramener de l'argent, donc ça vaut le coup. Et là, il se pose des questions sur son rôle de photojournaliste. C'est bien de tricher, même si ça sert une bonne cause. ou pas, il se remet en cause, et voilà, il y a plein de choses, il va tout lâcher à la fin, parce que ça va trop loin. Mais c'est une belle BD, hein, une grosse BD, hein, ça doit faire presque 300 pages. En couleur, pas mal de jaune dominant, bien évidemment, hein, puisqu'il y a ces tempêtes de sable. Sur une histoire assez peu connue, ça parle d'écologie, du coup, parce que c'est bien les êtres humains qui ont détruit ce bout de territoire. Alors, ils le savaient pas, ils n'avaient pas de recul, ils n'avaient pas imaginé ce qui allait leur arriver. Il y a un petit fond de racisme aussi, forcément. On est encore en 1937, c'est encore très présent dans ces régions, voilà, avec pas mal de redneck au milieu de gens qui ont migré ici parce que dans le sud c'était trop difficile au niveau du racisme et qui se retrouvent avec une deuxième difficulté que sont ces tempêtes de sable. Et puis il y a de la solidarité, il y a pas mal de choses. Voilà, c'est une très très belle BD. Donc ça s'appelle Jour de sable de Aimé de Jong sur cette histoire typiquement américaine mais qui montre que voilà, quand on fait des choses écologiquement, il faut se poser des questions avant de le faire. Sinon, on détruit tout et c'est bien ce qui s'est passé. Les gens ont été obligés de migrer une nouvelle fois, hein, d'aller à des endroits où il n'y avait pas ces tempêtes. Donc voilà, très belle BD, Jour de sable.
Alors, en attendant de vous parler de 143 rue du désert ou de Minari, ou d'autres films hein, que nous espérons aller voir prochainement. On espère que vous êtes contents de retourner au cinéma quand même, parce que même si on n'était pas coupé de l'image hein, ces derniers mois, on a toujours la possibilité de trouver un DVD, de télécharger illégalement ou de s'abonner à une plateforme
légale.
À distance, à distance, oui. Voilà, de VOD. Quand même, le cinéma, le noir, le fait d'être avec d'autres gens, vous me dire, vous pouvez télécharger, inviter tous vos voisins dans votre salon, j'en suis bien consciente. Hein. Mais il y a aussi l'effet bande-annonce, et c'est pour ça que je vous dis qu'on est très, très en attente de pouvoir découvrir bientôt d'autres films dont nous avons pu voir les bandes-annonces. Hein. Ça, c'est toujours quand même quelque chose de très classe. On est allé voir dans ce film de Juste Philippot, La Nuée. Ce qui va vous permettre de vous parler d'insectes. Alors, un film français multigenre, à la fois fantastique et horreur autour de ce drame familial. Non, tu n'es pas d'accord sur...
Si, c'est multigenre, hein, parce que c'est presque un film d'auteur à des moments aussi sur, sur enfin, la misère des gens qui travaillent dans l'agriculture aussi. Hein.
Oui, alors c'est assez typique aussi de ces genres, c'est-à-dire que c'est un peu touche à tout. Parfois, ça peut un peu s'éparpiller hein, aussi, parce que bah, justement, c'est un peu le principe de ces genres. Dans l'horreur et le fantastique, j'ai lu beaucoup qu'il y a des endroits que ça pouvait être un film de science-fiction. Moi, je suis pas bien d'accord. Le fantastique, je veux bien. L'horreur, oui, parce qu'il y a une montée en tension.
Oui, c'est la typique des films d'horreur. C'est assez réaliste pour beaucoup trop, et puis c'est dans le monde actuel, quoi.
Oui, mais la science-fiction, elle pourrait être dans le monde actuel, mais c'est juste que voilà, c'est pas la terminologie, en tout cas, que j'aurais envie de mettre sur ce film. Hein. Il fait partie de la sélection Semaine de la Critique Cannes 2020. Vous savez que...
Ah, l'année dernière.
2020 dure pendant des années, c'est pour ça qu'il y en a après qui se trompent sur des tas d'événements qui peuvent se passer. Mais ça nous raconte quoi? Ça nous raconte Virginie, mère qui élève ses deux enfants, Laura et Gaston, dans une ferme dans laquelle on apprend. Il y a plein de choses qu'on apprend très rapidement, mais finalement on se fiche d'en savoir plus, qu'avant il y avait des chèvres et puis il y avait un papa aussi, sauf qu'il n'y a plus de papa, il n'y a plus de chèvres, il en reste une, elle s'appelle Huguette, et Virginie se met dans l'idée de vouloir se lancer dans la production de sauterelles, puisque la production d'insectes est une grande mode, et en particulier en France, je vais y revenir après les explications sur ce site. Évidemment tout ne se passe pas bien parce que c'est sur ce film, excusez-moi. Tout se passe pas bien, les sauterelles, il y en a pour assez.
Ouais, ça marche pas toujours bien. Le taux, parce qu'elle vend de la farine en fait de sauterelles. Elle en vend aussi quelques-unes grillées.
Ouais.
Elle a du mal à gagner assez d'argent. Hein. C'est vraiment très très problématique. Notamment, elle a deux enfants et elle voudrait qu'ils aient un peu plus de moyens pour eux quoi. Et donc elle est au bout du rouleau un peu quelque part cette agricultrice, cette éleveuse.
Et Julien bon, Brahim,
et puis
très,
ça vrille
très
après, ça vrille
rôle,
très vite, parce qu'elle tombe dans une espèce de folie.
Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, elle, d'abord, il y a la problématique de la ferme. Elle pourrait faire effectivement de l'élevage de la pisciculture ou du veau ou de la chèvre. En l'occurrence, là, elle en est avec des sauterelles. La sauterelle, c'est un choix intéressant parce que on sait qu'il y a des endroits dans le monde dans lesquels les nuées ravagent absolument
tout.
tout.
Enfin, toutes les cultures, hein, vous toutes risquez rien, cultures, ça ne vous mangera pas.
Donc, c'était intéressant de prendre effectivement un insecte qui marque les territoires dans certaines parties du monde. Et puis, parce que c'est aussi comme le grillon des insectes qu'on peut avoir dans l'imaginaire de ce qui est mangé, par exemple, dans certains pays d'Asie où on fait justement griller la bébête. Et qui se mange un peu comme une crevette.
En apéro, ouais, en apéro, un truc.
Pas forcément, mais en tout cas qui se mange comme tu peux manger tes petites crevettes. Et ce qui peut paraître aussi dégoûtant pour d'autres. Je prends un peu ce côté analogue un peu entre les deux bestioles. Et puis, c'est aussi un choix intéressant parce que c'est un animal qui fait du bruit.
Ouais.
Donc ça a une présence extrêmement importante dans ce film La Nuée et que ça va prendre plus en plus d'importance en termes de bruit et le cinéaste joue beaucoup sur cette sonorisation, cet arrière-fond, cette présence même quand la sauterelle n'est pas à l'écran, elle est là en fond, c'est-à-dire que c'est quand même les gens qui vivent avec le bruit de la bestiole hein, constamment à côté de la maison. Hein. Donc elle va se mettre, suite à un accident, à se découvrir qui se passe une chose extraordinaire avec ces sauterelles qui d'un seul coup deviennent des monstres.
On vous raconte pas comment.
Non,
et
mais
tout,
cannibalise finalement cette femme à la fois dans son esprit et dans son corps, dans sa chair. Et évidemment, ça devient un grand succès, hein, ces sauterelles. Donc elle va rempiler avec une serre, deux serres, trois serres, quatre serres.
Et puis après, c'est un voilà.
Et là, c'est un engrenage.
Ouais, elle s'en sort pas. Et voilà.
C'est un engrenage à la fois sur comment élever ces bestioles, puisque on passe du petit côté gentillet. Fantastique, je fais mes sauterelles et dans ma chair j'en fais quelque chose, à comment effectivement on tombe un peu dans une tension un peu plus horrifique, qui sait qui va se faire bouffer. Globalement on vous la fait courte, mais enfin il y a un moment on se doute bien que quelqu'un va se faire bouffer.
On vous en raconte pas plus non plus.
Mais il y a quand même aussi des scènes qui sont typiques du genre et qu'on se doute bien. Hein, je t'ai dit après coup, j'étais sûre que le machin allait y passer. Hein. Parce que ça fait partie aussi d'un genre dans lequel on retrouve aussi quelques codes. Alors parfois le cinéaste il nous noie un petit peu le poisson, mais c'est plutôt une surprise pour le cinéma français qui tente peu le fantastique et l'horreur.
Il y a déjà eu des choses.
Mais c'est surtout que c'est très calme finalement. Certains et certaines pourraient reprocher à ce film d'être parfois trop calme dans sa présentation parce que ça court le pas de partout et ça hurle le pas de partout.
Parce que c'est
le bruit de la sauterelle qui prend le dessus.
Oui. Non, c'est assez équilibré du coup et c'est effectivement c'est pas Massacre à la tronçonneuse quoi. On est dans un film plus intelligent que ça.
Donc on retrouve donc Suliane Brahim qui joue Virginie, cette femme qui part dans un délire dans lequel plus personne ne la reconnaît. On retrouve aussi Sofiane Kames qui joue Karim, le voisin arabe viticulteur qui se fait lui aussi honnir par la communauté parce que elle franchement avec ses sauterelles tout le monde se fout de sa gueule mais
surtout
la
gueule
de ses enfants.
Bah alors c'est pas facile.
Marie Narbonne qui joue Laura, la fille qui n'en peut plus, qui justement aimerait bien que sa mère produise autre chose que des produits dont tout le monde se moque et en particulier à l'école. Et puis le fabuleux Raphaël Roman qui joue Gaston, ce fils qui est encore à l'âge où on aime sa mère sans scrupules, sans se poser de questions et qui est juste dans le plaisir de ces bestioles. Personne n'en a peur des bestioles, hein. C'est des sauterelles.
C'est des sauterelles, hein, ouais.
Alors peut-être que toi qui m'écoutes, tu as peur des bestioles et des sauterelles, mais en vrai, à la base, c'est pas censé faire peur. Donc c'est aussi là où c'est intéressant, c'est comment
un insecte gentillet se transforme en autre chose.
Voilà, et comment le son prend beaucoup d'importance hein, justement dans cette prise de bestioles qui devient plus forte, plus grosse. Et donc plus inquiétante. Et je trouve que le bruit de la bestiole est extrêmement inquiétant au fur et à mesure. C'est pas le film du siècle, mais c'est un film qui est à voir, je trouve, dans cette reprise, parce qu'on est, il y a justement pas de blockbuster. On n'est pas obligé d'aller voir non plus Les Deux Alfred, qui certainement va être très marrant, qui est le film français que tout le monde attend. Certainement, peut-être pas toi qui m'écoutes, mais en tout cas voilà, donc c'est aussi intéressant d'avoir un cinéma français un peu différent, et La Nuée en fait partie, donc on peut passer du temps à aller au cinéma et d'aller voir aussi ce genre de film.
On aime bien le film avec les insectes, on avait bien aimé Mandibule.
Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir parce que c'est surtout Mandibule, un film sur deux débiles, ce n'est pas la même chose.
Oui, et puis c'est un film de Quentin Dupieux, c'est un univers à lui tout seul.
Qui ne surprend personne, je veux dire, tu trouves une mouche dans ton coffre, tu fais
oh. Et puis voilà, tu vis avec.
C'était un Dupieux, mais ça aussi, c'est toujours à l'affiche, ça vaut le coup parce que c'est une.
Ouais, c'est un Dupieux, quoi, c'est toujours bien.
Oui, tu sais que j'aime beaucoup écouter Dujardin en train de se regarder dans la glace avec son blouson.
On vous conseille les films de Dupieux.
Ben oui, peut-être que vous n'aimez pas. Peut-être que d'ailleurs, vous êtes fan de Dupieux, de Steak ou de Rubber, et puis que vous détestez les derniers, parce qu'effectivement, il y a une autre emprise dessus. Donc,
bon, on va parler d'insectes, là, plutôt.
Oui, alors plutôt, je fais ce que je veux. Donc, les insectes, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi, attention au roulement de tambour, la novel food.
Oh là là, encore un anglicisme.
Bah oui, j'y suis pour rien. Alors, il n'y a pas très longtemps, dans l'Union européenne, on attendait une uniformisation des marchés pour la production et la vente des insectes, puisque selon les pays, c'était permis ou c'était pas permis. Pour exemple, en Belgique, c'est l'Eldorado de la production de la vente d'insectes. D'ailleurs, dans le film, il y a une petite blagounette sur Biocoop, puisque un des arguments qui est donné, c'est il faut arrêter de manger de la viande, puisque on a une protéines plus faciles à produire, ce sont les insectes, et qui seraient moins problématiques en termes de climat. Bon, avec la nuit, on se rend bien compte que ça pose un tout petit souci par rapport à quelle alimentation on va donner, mais c'est surtout à quoi va servir cette alimentation. Et dans la nuée, Virginie vend, comme tu le disais tout à l'heure, de la farine de ces bestioles, mais aussi les fait griller et les vend à des magasins qui vendent de la nourriture pour être humain, pour toi et pour moi, à base de sauterelles ou d'autres insectes. Et c'est cette réglementation qui était aussi importante dans l'Union européenne pour pouvoir développer le marché. Et j'ai donc appris que la France était une start-up nation qui n'en peut plus sur la novel food.
Je l'ai. Oh merde.
Ben ouais. Il y a une entreprise qui s'appelle Yinsect qui veut se placer comme la multinationale de l'insecte. Alors pour l'instant, ce qui marche, c'est la farine de l'insecte. Yinsect, par exemple, a le vert de farine, qui est un animal assez...
C'est le plus couramment élevé.
Et il y en a plusieurs espèces, et c'est une entreprise qui se prévaut d'avoir choisi un insecte qui produit beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est donc dans le productivisme, on n'est pas dans la décroissance.
Oui, mais alors du coup, dans l'idée, parce que là, dans le film, elle n'arrive pas bien à vivre, et elle vend à des éleveurs de canards qui donnent effectivement ces protéines animales issues de la sauterelle. Dans la vraie vie, là,
c'est un peu plus compliqué, c'est que pour l'instant, c'est surtout vendu pour les animaux domestiques. C'est-à-dire
oui, ça reste pour les animaux pour
non,
l'instant.
Pas que, mais c'est en train de se développer. La vraie question est de savoir est-ce qu'on va se retrouver avec des farines animales
Des farines animales d'insectes, tu veux dire
Ouais, dans la bouffe pour des animaux qui ne mangent pas d'autres animaux. C'est la question qui est en train de se poser. Mais par exemple, dans la pisciculture, où on a beaucoup de mélanges de soja et de farine animale, on pourrait aussi se retrouver avec ces farines de verre. Et puis, pour l'instant, il y a beaucoup de farines qui sont destinées à l'alimentation de vos animaux domestiques. Donc, l'Union européenne est en train, depuis quelques mois, c'est très récent, de mettre à norme tous ces protocoles. À qui va pouvoir manger ça ? Comment ça va être produit ? Et à qui s'est destinée cette alimentation ? Et donc, on a une alimentation qui, en France, aussi pourrait maintenant être destiné aux êtres humains. Donc d'abord sous une forme plutôt croustillante à l'apéro, comme une chips, mais aussi comme une source de protéines qu'on pourrait retrouver peut-être chez certains sportifs. Voilà, c'est aussi... Mais d'abord, pour l'instant, on voit... Alors, vous savez, il y a des vendeurs de CBD de partout maintenant. Et je pense qu'on va bientôt se retrouver avec des vendeurs d'insectes croustillants de partout. Alors moi, j'ai été chercher sur Internet des fermes de croustillants, on en trouve... une pelletée en France.
Et ils élèvent quoi? Surtout...
Ça dépend. Mais
donc sauterelles, ça se fait?
Il y a du grillon, j'ai trouvé un petit peu. Et après, c'est variable, ça dépend. Mais c'est vrai que les grosses, celles qu'ils veulent se positionner à l'international, elles vont aller choisir, comme je te disais tout à l'heure, comme il y a un vert de farine très spécifique, parce que ça va être de la production intensive et qu'ils font de la ferme verticale. Il faut se rendre compte qu'on n'est pas...
Un vert de farine, c'est plus facile d'élever des vers que d'élever des chèvres dans un immeuble.
Donc c'est là où ce qui va être intéressant à suivre, c'est quel est le développement? Est-ce qu'on va vraiment retrouver dans notre alimentation à la place de notre steak de bœuf ou de notre protéine végétale? C'est un peu ce qu'on essaye de nous vendre.
Et ça pourrait arriver dans la bouffe industrielle. Au lieu de mettre des morceaux de cheval, il pourrait arriver à compléter avec des protéines de ce genre-là.
Oui, puisque c'est ça, c'est une transformation. Donc, est-ce qu'on va nous le dire ou pas? Donc ça, l'Union européenne, elle est en train de finir, de se mettre en place sur ces questions, mais est-ce que ça va être dans les prochaines réglementations? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ça pourrait être un insecte séché entier, sous forme de collation. C'est comme ça que ça doit être présenté, ou dans des poudres, des produits protéiques. Voilà, donc ça peut apparaître pour l'instant surtout dans les biscuits. C'est pour ça que je pensais aussi aux sportifs. Donc c'est soit de la poudre que tu, hein, on en trouve parfois dès que tu veux un peu gonfler du muscle. Et puis sinon dans les biscuits ça se fait bien. Donc peut-être est-ce que dans les plats cuisinés c'est ce que tu me demandes.
Bah, pas encore.
Je crois pas non. Là,
mais,
ça devrait arriver bien évidemment. Ouais. Là où il y a des gens qui se posent des questions, c'est qu'il y a en Outre-mer des territoires sur lesquels on mange déjà des insectes grillés en collation. Donc ça pourrait rappeler que ce qui se fait ailleurs et que en métropole on peut trouver burk, ben ça se fait hein, dans la France. Sauf que c'est pas sur la métropole, c'est ailleurs et c'est en Outre-mer. Donc ça serait aussi intéressant de peut-être justement reparler de nos différences de culture, nos différences de pratiques et se rappeler que il y a pour l'instant des tas de gens qui dans le monde se nourrissent à base d'insectes en particulier grillés et que c'est pas forcément des multinationales qui se saisissent de cette affaire. Et c'est là où encore une fois on tombe dans le travers, c'est que même si je dis parce que j'en suis pas persuadée, on remplaçait la protéine de l'insecte on remplaçait l'animal à sang chaud comme le bœuf ou qu'on remplaçait le poulet par de l'insecte, ça reste de la viande. Rappelons-nous bien ça surtout. Je veux dire, c'est pas un truc de vegan, hein, voilà. Sur la souffrance animale, je ne saurais que dire sur le niveau de la sauterelle.
Non, bah ouais, sur les insectes, on peut botter en touche.
Ah, je sais pas, tu sais, il y a des gens qui mangent pas de crevettes. Non, mais c'est un vrai débat aussi.
Non, mais les plantes souffrent aussi, voilà.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va droit vers l'industrialisation de ce type de produit et qu'on a certainement raté un petit quelque chose. Pourtant, tapez hein, ferme insecte sur Internet, et vous verrez une pléthore de gens qui vous vendent soit des insectes qui ont été élevés et tués ailleurs et qu'eux-mêmes après vont reconditionner, soit des gens qui essayent de faire un marché comme Virginie dans le film et d'élever des choses un petit peu en France. On verra ce que ça donne, mais moi je pense qu'on part déjà du mauvais pied quoi. Ouais. Enfin, ça sent déjà la multinationale. Par contre, ce qui est clair, c'est que nos bêtes, elles vont être nourries.
Voilà, c'est ça. C'est qu'avant de passer dans notre bouffe à nous, ça passera dans l'intermédiaire. C'est-à-dire, on va nourrir les animaux qu'on mange.
Voilà. Mais pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est quelle transparence, produit par qui, dans quelles conditions?
Ouais.
Parce qu'il y a un secte, ils ont une. J'ai vu des vidéos, ils ont une usine, il n'y a que des robots à l'intérieur. Je veux dire, c'est pas prêt de faire marcher de l'emploi non plus.
Oui.
Bon, après, si ça fait marcher des robots avec des ingénieurs, tu vois, moi je veux bien. C'est bien, il faut mieux avoir de l'emploi qualifié que du manut cranchi et mal payé. J'ai rien contre les manutes, hein. Je veux dire, c'est juste que. Voilà, ça paye pas bien.
D'ailleurs, elle s'en sortira mal dans le film, hein, financièrement. Enfin, que ça marche mieux quand ça, à la fin, mais c'était d'autres problèmes.
Mais je vous le dis, moi, je pense que c'est un peu le problème qu'on aura peut-être demain si on légalisait le cannabis. C'est-à-dire, qui va prendre le marché? Est-ce que c'est Pernod Ricard qui va se mettre en multinationale à nous fournir en bœuf?
Je crois qu'ils ont déjà acheté.
Tout à fait, ils se sont déjà.
Aux États-Unis, ouais.
Ou est-ce que c'est des Virginie, comme dans la nuée, qui vont tenter de faire marcher une ferme locale? Bio, je sais pas, c'est une vraie question. Bon, Virginie, peut-être pas tout à fait bio dans son concept, mais c'était pas trop son
problème. Ouais, enfin, c'est un film avec de l'horreur dedans, donc c'est moins bio l'horreur. Voilà.
Bon, on va vous laisser, vous allez parler beaucoup de culture ce soir. Voilà, c'est comme ça, des fois le Canu Info, ça se passe comme ça se peut. En tout cas, nous, on va vous retrouver la semaine prochaine, toujours comme on peut. Dans les meilleures conditions, nous l'espérons. On espère que vous allez tous et toutes bien. Vous rappelle qu'il y a des Canu Info tous les soirs qui ont repris et qui sont très contents aussi de vous faire des tonnes de choses et tout plein d'émissions vachement bien et tout plein de bandes continues avec de la musique dedans. Ça aussi, c'est hachement bien.
Allez, bye bye.
Ciao.